on est bien dedans.
Ça va, ouais, ça fonctionne.
Je serai
ah bon, tu seras vraiment battu?
Ouais, je
d'accord.
Je vais vous ramener un micro à chaque.
Bonjour, Paris. Bonjour, bienvenue pour cette première conférence de samedi au bar de Madame Spock. Je suis au regret de vous dire que China Melville ne viendra pas à cette conférence. Il était prévu sur le programme, mais il ne viendra pas. Donc, nous avons trouvé des remplaçants de qualité au pied levé. Donc, nous avons Jigme Degado, universitaire spécialiste de la littérature victorienne, du fantastique et d'autres choses très intéressantes. Thierry Jeanbroc, je te présente comment, du coup, spécialiste qui a écrit un ouvrage sur l'image du tueur en série, sur certains ouvrages sur la science-fiction. Serge Gaiman, écrivain, scénariste, homme à tout faire, critique. Xavier Mauméjean, auteur, directeur de collection, philosophe, et Thierry Dugros, auteur aussi, également. Donc, nous allons parler dans cette conférence intitulée de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de Dr. Jekyll, du personnage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, à savoir qu'il y a une rétrospective tout de suite après la conférence avec le film Dr. Jekyll et Sister Hyde qui sera projeté dans une des salles de cinéma. Consultez votre programme, je ne sais plus dans quelle salle elle se situe. Et nous allons commencer. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde sont une entité qui est très présente depuis l'écriture du roman par Robert Louis Stevenson en 1886, si je me souviens bien. Et il a connu plusieurs adaptations, dont des adaptations cinématographiques qui ont connu un certain succès en noir et blanc, en couleur, et des adaptations en roman graphique, on pense en roman graphique, mais aussi en adaptation dans certains romans et certaines séries. On peut penser par exemple à la BBC qui a récemment fait une série qui s'appelle Hyde, qui a été rediffusée récemment sur Arte, qui réinvente et recompose un Hyde dans la société moderne et qui est un petit bijou. Mais j'avais une première question pour chacun d'entre vous, c'est que représentent Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour vous en tant que personnage et dans votre imaginaire en fait. Comme tu veux.
Alors, dans mon imaginaire, c'est Jekyll et Hyde, c'est l'être humain, point barre, c'est tout. Disons qu'avec les deux facettes de l'être humain, quoi. Pas le bien et le mal, mais la lumière et l'ombre, plutôt. Voilà ce que ça représente pour moi, principalement.
D'accord. Dans un premier temps, moi, c'est un film, un vieux film avec des effets de maquillage impressionnants. C'est aussi ce que, évidemment, dit Thierry. Mais ça, c'est quasiment le temps de l'enfance, le temps d'il y a longtemps maintenant, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est une époque, c'est l'époque victorienne. Et quand on regarde le contexte, c'est finalement un texte qui n'est pas si surprenant que cela. Par exemple, à l'époque, il y a un concept qui fait fortune, qui est celui de The Missing Link, le chaînon manquant. qui est un concept qui apparaît curieusement en géologie, dans un premier temps, et qui, via la polémique générée par Darwin, va sauter ce qu'on appelle un lemme, un concept qu'on déplace d'un champ d'application à l'autre, et qui, à partir de là, va connaître une fortune de scandale qui est impressionnante, qui fait que ça va devenir une véritable problématique littéraire. Et bon, il y a Dr. Jekyll, il y a cette part de bestialité, de violence, de brutalité, mais il y a aussi, par exemple, Conan Doyle, dont on attribue d'ailleurs un faux anthropologique, on en a pris un qui fait The Creeping Man, l'homme qui grimpait, qui a vraiment la même chose, un homme qui s'injecte des hormones de je ne sais plus quoi et qui commence à se transformer globalement en singe. Toujours chez Conan Doyle, son grand scientifique, le professeur Carpenter, il ressemble à un anthropoïde, enfin à un gorille, etc. On pourrait multiplier comme ça la fortune du concept de chaînon manquant. Un chaînon manquant aussi qui est social, par exemple, on se demande quel est le chaînon manquant entre le riche et le pauvre. Il y a un darwinisme social qui apparaît au même moment. Et donc, pour moi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est deux approches, une spontanée, immédiate, liée à l'enfance, qui est celle de la frayeur, de la terreur, etc., et celle plus réfléchie de l'adulte, du lecteur, qui est celle finalement d'un texte de son époque.
On parle de relation personnelle au personnage, si au concept. Veux, oui. Moi, je suis assez sensible à enfin, plusieurs déclinaisons. La première, c'est que Hyde, c'est la preuve par un ou deux que les personnages de méchants sont très intéressants. Or, on s'est beaucoup intéressé aux méchants au XXe siècle. Avant, c'est peut-être plus diffus, disons. Voilà. Après tout, Hyde précède de quelques années Dracula, qui sera écrit à la dernière. 10 ans plus tard. Oui. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est cette incroyable coïncidence ça vous concerne peut-être plus, de la rencontre qui a été soulignée dans une très bonne adaptation anglaise en téléfilm de l'histoire de Jack l'Éventreur, entre Jack l'Éventreur, les crimes de Jack l'Éventreur, premier grand serial killer moderne, disons, et le fait qu'à la même époque, on écrivait ou on jouait sur scène Dr. Jekyll et Hyde à Londres, au grand effroi de la bonne société anglaise de l'époque. Évidemment, le rapprochement est très très frappant, et aussi bien ce réalisateur qu'Alan Moore, dans par exemple From Hell, a beaucoup insisté sur la rencontre et la coïncidence extraordinaire entre les deux. Et puis la troisième chose qui me frappe, et à laquelle on peut aussi associer le nom d'Alan Moore, c'est cette idée que le twist pseudo-scientifique du sérum qui permet de transformer Jekyll en Hyde et vice-versa est une trouvaille narrative assez géniale qui inaugure un procédé appelé à connaître une grande fortune, y compris encore de nos jours, qui est l'extériorisation d'une partie du caractère. C'est-à-dire, au lieu de manifester le caractère sous la forme d'un comportement, on le manifeste sous la forme d'un corps. Et ça permet d'un seul coup de dramatiser et de visualiser, de concrétiser le propos, ce qu'on a à dire sur la nature non transparente de l'être humain de façon très frappante. Donc les trois choses sont contenues dans le thème de Hyde et me frappent beaucoup.
Se rendre encore plus transparente. Parce que Hyde, finalement, c'est l'essence même de la personnalité de Jacko. Il ne peut pas faire autrement, il a toujours été comme ça, et s'il n'avait pas été un monstre dès le départ, il n'aurait jamais créé le sérum. Et c'est ça qu'on oublie, c'est que c'est bien le monstre à l'intérieur qui va créer la situation, qui va permettre au monstre à l'extérieur de s'exprimer. C'est de l'intériorité vers l'extériorité. La monstruosité, elle n'est pas séparée, elle n'est pas, c'est pas une dichotomie. C'est une seule et même personne, simplement comme un Janus, on ne sait pas tout à fait à quel visage on va s'adresser.
Oui. Moi, je vais essayer. Merci. Je voulais simplement partir d'une expérience aussi personnelle, mais qui n'est pas de la lecture de Jekyll Hyde, mais de la lecture de L'île au trésor de Stevenson, et du personnage de Pew, l'aveugle, qui est pour moi une des figures les plus angoissantes de la littérature, en tant qu'enfant en tout cas. C'est-à-dire cet aveugle qui marche la nuit, dont il sait qu'il est une figure du mal. Voilà. Là, mon premier rapport, si je veux dire, avec le mythe de Jekyll et Hyde, pour moi c'est un des grands mythes modernes, hein, au sens barthésien du terme, c'est la chanson de Serge Gainsbourg, qu'on oublie, que Serge Gainsbourg a écrit une chanson, et donc c'est une manière aussi de nourrir le mythe finalement. Voilà. Par contre, j'ai découvert le texte beaucoup plus tard, donc je n'ai pas de rapport avec le texte. Bon, j'ai redécouvert, j'avais déjà 16-17 ans, etc. Bon, évidemment, c'est un texte majeur. Et ce qui me frappe, je voudrais insister sur un aspect qui n'a pas été. Ben, beaucoup de choses ont été dites, mais il me semble qu'il y a un aspect fondamental qui d'ailleurs relie trois des grands mythes modernes, Dracula, Frankenstein, Jekyll et Hyde, c'est le rapport au rêve et le rapport à l'onirisme. Et ces trois textes donc, ont été écrits à la suite d'un rêve, un peu comme pour De Quincey d'ailleurs. En gros, autant que je me souvienne, l'image du rêve, centrale du rêve, c'était un être derrière une fenêtre, perçu derrière une fenêtre, et un être justement légèrement, enfin un peu monstrueux. Stevenson a écrit, au sortir de ce rêve, d'un seul trait, en trois jours, une première version de Jekyll et Hyde, qu'il a montré à sa femme, qui était un peu puritaine, et qui lui a dit, en gros, tu n'as pas touché l'allégorie, enfin, tu n'as pas vu l'allégorie qu'il y avait dans cette histoire de bien et de mal, etc. Et donc, ton texte ne vaut pas grand-chose. Et donc, il l'a mis au feu. Et un peu plus tard, quand même, il a réécrit une nouvelle version, cette fois en plusieurs semaines. Et ensuite, il a corrigé, etc. Mais le texte, c'est un premier jet écrit à la suite d'un rêve et en trois jours. Donc c'est assez fabuleux, comme un texte qui fait une centaine de pages. Voilà. Donc ça me paraît quelque chose d'intéressant. Puis pour rebondir sur ce qu'a dit Thierry, il y a ce que dit Stevenson qui est très intéressant, c'est que Jekyll, ce n'est pas simplement un être double, c'est une multiplicité d'êtres. En anglais, c'est « polity of beings », littéralement un ensemble de personnalités. Et je voudrais terminer en citant simplement Nabokov, qui a souvent la dent dure envers un certain nombre d'auteurs, Faulkner par exemple, et qui dit beaucoup de bien de Stevenson, disons que c'est un des grands stylistes de disons, l'histoire de la littérature, et qui confirme tout à fait ce que j'ai dit en utilisant une métaphore chimique, et en disant que Jekyll contient déjà des particules de mal, en quelque sorte, et que Hyde est simplement un précipité du mal. Voilà. Je terminerai là-dessus, mais bon, et pour moi, c'est un des grands, et effectivement, le fait que ça, en plus, c'est associé à l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que l'un des premières adaptations de films fantastiques, on va dire, films d'horreur à l'époque où le genre n'est pas constitué, c'est 1908, hein, c'est donc Jekyll et Hyde, premier court-métrage, 1920, premier long-métrage, etc., tout au long de l'histoire du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
Juste un mot pour dire que je connaissais l'histoire de la destruction du manuscrit et des trois jours, mais je la connaissais sous une forme angoissante, c'est-à-dire que la légende que je connaissais, c'était que effectivement Stevenson avait écrit à la suite du rêve en trois jours, donné à lire à sa femme, qui avait jeté le manuscrit au feu en disant c'est trop ignoble, cette histoire n'a pas le droit d'exister. Et il l'avait réécrit.
Oui, René Reuven a même rebondi là-dessus en disant que en fait le manuscrit n'aurait pas été perdu, détruit, et en fait quelqu'un serait tombé dessus et serait devenu Jack l'Éventreur, où il aurait suivi le protocole du premier manuscrit.
D'accord. Mais c'est lui qui l'a jeté au feu, c'est pas sa femme.
Il y a quelque chose que Gilles a évoqué, mais juste un mot, et qui dit toute l'époque de Jack l'Éventreur et de Jekyll, c'est la notion de volupté. C'est qu'avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on entre dans ce que De Quincey a appelé le crime par volupté. Et De Quincey avait écrit il faisait la différence entre le crime crapuleux, le vol, on essaye de récupérer le bien d'autrui, et le crime par volupté, où on cherche à se faire plaisir. Et Mr. Hyde, il est exactement là-dedans. C'est un voluptueux. C'est quelqu'un qui veut jouir.
cette notion victorienne du sujet qui est écrit est un scandale. C'est un vrai scandale. Il est là, le scandale de Haïd. C'est que c'est un jouisseur. En plus, il joue sur le corps des autres. Son corps se transforme et il va se les prendre comme il veut. Et c'est là qu'est le scandale dans cette époque victorienne. C'est cette idée de la jouissance qui, tout d'un coup, va s'exprimer et dans le corps et sur le corps des autres, sur des modes artistiques, voluptueux et même intelligents. Et alors, l'idée du criminel intelligent, ça, c'est une grande nouveauté. Et c'est de l'époque, hein. On retrouve ça chez Vandenberg et d'autres. Hein. C'est l'idée que le mal
Moriarty.
A une intelligence. Ou aurait une intelligence.
Moriarty, oui, bien sûr.
Il y a aussi, je reviens, je pense que ça en relation avec tout ce qui a été dit, notamment ce que tu viens de dire Thierry, il y a, curieusement, j'aimerais rapprocher de Jekyll et Hyde des textes comme Mowgli, ou plus tard Tarzan même, ouais. Tarzan qui est écrit par un Américain, mais qui se veut anglais, le personnage de surhomme qui fait le pont entre la nature et la culture, il est censé être anglais, et... Jekyll, Jack, tous ces personnages sont des contemporains de la culpabilité de la technique. C'est-à-dire qu'il y a l'âge de la technique et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on invente la notion de culpabilité vis-à-vis de la nature, vis-à-vis d'un genre humain perdu, etc. Jusqu'aux révolutions techniques, la nature, l'être humain s'en cogne, clairement. Hein. Dans les mythes, c'est plutôt une nature agressive, on se bâtit contre la nature, etc. Et il me semble, mais c'est esquissé, mais que bien que très divers, Mowgli, Hyde, etc., plus tard même Conan, d'une certaine façon, sont des réflexions sur un homme naturel qu'on aurait perdu en route, en chemin, qui serait peut-être à la fois très dangereux et très séduisant, puisqu'amoral. De toute façon, les concepts moraux sont des concepts modernes. Et donc, ça me semble être aussi une réflexion sur la nature par la culture. Et une réflexion coupable, en fait, sur la nature par la culture.
Nouveau rapprochement possible, et qui est tout à fait... opératoire au niveau des dates, c'est un rapprochement entre donc Jekyll et un texte français ultra célèbre écrit exactement la même année, qui est Le Horla de Maupassant.
Oui.
Le Horla, c'est l'histoire d'un... Enfin, il y a plusieurs versions du texte, il y en a trois, je crois, mais dont on ne tire pas la même impression suivant la longueur. C'est-à-dire que la longueur permet à Maupassant si le texte est dans sa version courte, d'insister sur la folie du personnage, mais plus il a de temps et d'espace devant lui, plus il documente son sujet, plus il le concrétise, et à la fin, dans la version la plus longue, qui est aussi aujourd'hui la plus connue, on est pratiquement sans ambiguïté dans la science-fiction. Il y a quelques éléments dans le texte qui permettent de dire que le Horla, la créature invisible qui rôde chez le narrateur, est une nouvelle forme d'existence qui est apparue au Brésil, qui est venue en bateau jusqu'en Europe, etc. Mais bon, ça c'est un peu l'infrastructure au fond de le dispositif de crédibilité du texte, c'est intéressant, mais c'est pas forcément l'impression qu'on en retire. La grande impression qu'on en retire, c'est cette impression de dédoublement et d'invisible. Il faut quand même rappeler que ces textes sont produits 25 ans avant l'invention de la psychanalyse. Bon. Or, ils sont des métaphores psychanalytiques quasiment parfaites qui sont encore couramment utilisées aujourd'hui. Et aussi bien leurs noms sont également significatifs. Phonétiquement, le Horla, on entend très bien, c'est-à-dire celui qui est en dehors, qu'on met en dehors de nous. Hyde, c'est ce qui se cache. Ouais. Bon, voilà. Donc on est à la limite, c'est très intéressant, on voit se produire un changement d'esthétique entre la fable, disons, qui classiquement dans la littérature laisse entendre des vérités allégoriques sur l'être humain, sur la psyché, sur la condition humaine, et des récits de nature beaucoup plus inquiétante, car eux, ils ne sont plus des fables ni des allégories, mais des récits concrets d'événements qui ont une portée symbolique, mais qui se déroulent en tant qu'événements, et dont il faut assumer la logique d'événements. Le Horla, c'est l'histoire d'un homme en proie à une force invisible qui se manifeste concrètement et qui finit par le détruire. Et Hyde, c'est concrètement l'histoire d'un homme qui a deux visages, et dont le deuxième visage prend peu à peu le pouvoir et martyrise le premier. Et bon, il a été fait très souvent des rapprochements à propos de Hyde, sur le refoulement, la société victorienne, le corset de bonne manière et, effectivement de verrous psychiques mis entre l'homme des pulsions et l'homme civilisé, l'homme social. Ce sont peut-être des métaphores et des images, des récits et finalement des mythes, puisque tous ces textes sont aujourd'hui mythiques, tous ces personnages, aussi bien le Horla que Dracula que Hyde. Ces textes et ces images ont peut-être permis, disons, à l'homme occidental de la fin du 19e siècle, qui est un homme avec lequel on partage certainement beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup de points de divergence, en particulier sur le sentiment de supériorité naturelle, c'est-à-dire que nous sommes des, enfin, je pense dans la plupart des cas, nous avons intériorisé, le 20e siècle nous a beaucoup aidé à intérioriser le fait que nous n'étions pas dans une position de créateur privilégié de l'histoire et que, l'homme européen, l'homme occidental n'avait pas spécialement de leçons de civilisation à donner. Mais à la fin du 19e, c'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas ce relativisme. Il y avait une quasi-certitude absolue d'être une forme de civilisation supérieure, appelée à dominer le monde, à éduquer le reste du monde, etc. Et ces textes, 25 ans avant que Freud commence à dire « Mais vous savez, l'homme n'est peut-être pas si transparent, la pulsion de mort, attention. » Ces textes sont là pour nous dire que c'est une représentation qui monte, c'est-à-dire avec la conscience d'être une civilisation parvenue au sommet de l'histoire, ayant des empires partout dans le monde, contrôlant tout. L'Europe, à l'époque, les États-Unis sont encore même pas une puissance. Moi, je vois dans ces textes qui s'accumulent peu à peu à partir de 1880 comme une sorte de tapotement sur l'épaule en disant la chute n'est jamais très loin. Quoi, voilà. Et en l'occurrence, la chute, c'est le retour de la bestialité, de la barbarie qui ne va pas tarder. À l'échelle de la civilisation, 20 ou 30 ans plus tard, ça commence.
Oui, je voulais rebondir peut-être sur ce que tu viens de dire. D'abord, pour signaler qu'il y a une très belle adaptation du Horla de Jean-Daniel Paulet, qui est un super court-métrage, donc avec Laurent Terzieff, qui malheureusement est mort il n'y a pas longtemps. Je veux revenir sur ce que dit sur Hyde, parce que Hyde, effectivement, l'un des sens de Hyde, c'est caché, donc forcément, c'est important, par rapport à la question du subconscient, etc. C'est aussi ce que qu'a caché Jekyll pendant toutes ces années de médecin victorien respectable, etc. Il le dit d'ailleurs, et là, ça a été une des choses qui a été censurée dans certaines versions, qu'il s'est livré à des plaisirs pas très, disons, descriptibles, en quelque sorte, innommables ou indicibles. Et en fait, ça a été corrigé en quelque chose de beaucoup plus sobre dans la dernière version. Et bon, certains critiques, certains écrivains, comme Jérôme Charing, par exemple, ont évoqué l'homosexualité latente dans Jekyll et Hyde. Il y a un autre sens de Hyde, c'est la peau. Et ça rejoint un peu ce que disait Xavier tout à l'heure. Hyde, c'est la peau de bête, littéralement, c'est la peau de l'animal. Et Stevenson joue clairement sur le double sens du mot Hyde, c'est-à-dire que Hyde, c'est aussi la version primitive de l'individu. Là, on rejoint tout à fait l'histoire du chaînon manquant, du darwinisme. Et finalement, c'est l'idée que le darwinisme, ce n'est pas simplement une évolution possible, c'est aussi une involution possible de l'individu. Et finalement, Hyde représente aussi un autre niveau, cette évolution. Et c'est toute la question que pose Stevenson dans ses textes, et pas seulement Stevenson, comme tu viens de le dire, c'est la question du paradigme humain, hein, où se situe la limite de l'humain. Voilà. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant. Et l'autre aspect, mais je pense qu'on va y revenir, c'est la manière dont Hyde apparaît toujours comme... D'abord, il apparaît en premier, avant Jekyll, c'est quand même très intéressant dans le texte, contrairement à ce qui se passe dans les films, où c'est l'inverse. Donc, c'est assez intéressant de voir que le premier film donc, important, le long métrage, la première chose qu'on voit, c'est le docteur Jekyll, rajeuni par rapport au roman, devant un microscope, en train de regarder des bacilles, etc., qui serait donc le fameux secret. La première vision qu'on a dans le roman, c'est Hyde. Mais on a une vision, justement, indirecte, et donc, la force du roman, c'est qu'on va attendre très longtemps avant de voir se matérialiser en quelque sorte Hyde, et on n'aura jamais de description précise de Hyde. Et je crois que c'est la grande force du texte. Et c'est justement la structure du texte et la manière dont il joue de manière extraordinaire avec les conventions des romans de l'époque. Le roman à sensation de Wilkie Collins, etc. Et puis, bon, il faut dire, pour terminer, je termine là-dessus, que Stevenson s'est passionné pour la question du double. Et que la question du double revient dans un roman ultérieur, Le Maître de Ballantrae, qui est l'histoire de deux frères ennemis, dont l'un s'appelle H.J., hein, c'est-à-dire rappel évident de Jekyll et Hyde aussi. Voilà, je m'arrête là, mais c'est juste pour...
Parler de culpabilité, toujours justement, parce que je vais quelque chose dans l'ordre de la morale victorienne qui arrive et qui va toucher tout le monde, qui est cher. La question de la culpabilité en psychanalyse, elle est fondatrice de l'humain pour la psychanalyse. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la figure comme ça de Jekyll et Hyde, qui a donné plus tard celle des berserkers, c'est-à-dire des guerriers américains tels que Conan Barbar, Solomon Kane et tous les autres, qui sont une autre façon de s'arranger de la culpabilité, nous démontre qu'à un moment donné, il existe, ou il existerait des sujets, des êtres, qui peuvent s'arranger avec leur culpabilité jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et qu'est-ce que ça donnerait à un être humain qui se serait débarrassé de sa culpabilité, c'est-à-dire de toutes les inhibitions civilisées qui se seraient intégrées dans sa personnalité. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, ça peut donner un nazi, effectivement, dans les années 30.
La bête blonde.
C'est la bête immonde, hein. Mais ça donne également des formes humanisées, parce que le nazisme, c'est quand même une forme humanisée du mal, très humanisée et administrative, mais ça donne aussi des guerriers sauvages. Et ça donne aussi Hyde, ça donne aussi, puisque c'est à peu près à la même époque, ça donne Dorian Gray.
Puis plus tard, dans la nouvelle barbarie, ce que Camus appelait la barbarie en blouse blanche, qui est la barbarie nazie, qui est plus la barbarie musclée, la barbarie que dénonce Camus, c'est la barbarie des statistiques, c'est la barbarie où on n'a même pas le courage d'affronter celui qu'on tue. Cette culpabilité qui, Thierry, je pense, est beaucoup plus que victorienne, elle est occidentale. C'est la création d'une culpabilité et d'une barbarie occidentale. Elle va rebondir avec une créature qui est totalement assumée comme étant un nouveau Hyde, jusqu'à l'initiale, c'est Hulk de Stan Lee et Jack Kirby, où on a absolument le même schéma, mais cette fois-ci avec un renouveau de la culpabilité occidentale et scientifique, qui est le nucléaire. Je parle bien sûr du premier Hulk, hein, le Hulk originel, et où, en fait, on peut réactiver les mêmes problématiques pour aller vite, mais surtout le même sentiment de culpabilité, mais je rappelle qu'il est une culpabilité culturelle, qui est une invention, en fait, de la culture vis-à-vis de la nature. Ce n'est pas une culpabilité naturelle, qui est donc reconduite avec un nouveau schéma scientifique, l'irradiation, mais qui est globalement la même.
Sur une montagne, il a entendu Dieu et Dieu leur a dit « Jouez !» Et puis il y a un rabbin qui lui disait « Comment ?» C'est là que je suis pas plus habitué. C'est bien dans cette question-là que ça se passe. C'est bien sûr qu'on doit jouir, bien sûr qu'on devrait trouver notre plaisir, bien sûr, mais comment ? Quels sont les moyens qui nous ont été donnés à nous sujets pour jouir ? Et le 19e siècle, avec son côté scientifique et parfois même scientiste, parce qu'il découvre de nouvelles choses, il commence à théoriser les événements de la nature, il se dit, et si la science nous permettait, et si la philosophie nous permettait, et si la découverte du chaînon manquant nous permettrait de donner une explication sur comment nous en sommes arrivés là, à ce niveau de civilisation. Ben, ils essayent, hein. Le sérum, la science-fiction, plus tard dans les années 70, les radiations, aujourd'hui la virtualité, demain.
Je sais pas, je vais peut-être rebondir juste brièvement là-dessus. Je crois qu'effectivement, tout ça, ça se retrouve aussi au cinéma et à la télévision et après, dans ce qu'on appelle le mythe du savant fou. Hein, c'est-à-dire que tout au long de l'histoire du cinéma, depuis les années 30, hein, on a des figures de savants effectivement transgressifs, hein, qui utilisent différentes procédures et ça passe par différentes figures, justement. Alors, la figure la plus répandue, c'est la figure du médecin. Pas tellement un chimiste, mais celui qui charcute, qui travaille sur le corps, qui modifie les corps, etc. Et bon, Bela Lugosi, par exemple, s'est illustré dans un certain nombre de rôles dans les années 30. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve cette figure du savant fou. Bon, on la retrouve d'une autre manière dans des avatars, disons, de Frankenstein, comme dans Blade Runner, par exemple, ou d'autres, où effectivement, cette question de la manipulation de l'humain, alors que ça passe effectivement par la manipulation du corps, manipulation du cerveau, manipulation des niveaux de réalité, etc., se retrouve tout au long de la... Bon, voilà, donc c'est une sorte de prolongation de ça. Juste un tout petit détail, je rappelle qu'il y a aussi d'autres personnages dans le roman de Stevenson. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est l'avocat, Utterson, hein, l'homme de loi, celui qui incarne l'ordre et la loi, justement. Et le premier portrait qu'on a, qui est fait par le narrateur, disons, troisième personne, dans le roman, c'est justement un portrait de Utterson. Et la première chose qu'il nous dit, c'est qu'il aime le vin. Il adore le bon vin, d'ailleurs, ce qui est un lien avec Jekyll, qui adore le bon vin aussi. Donc, c'est le plaisir dont tu parlais. Mais que, par contre, comme il est victorien, etc., il aime mortifier le goût. Enfin, il aime se refuser le goût qu'il a pour le vin. Et donc, le retarder au maximum. Et donc là, on a déjà, dès la troisième ligne du roman, toute la problématique, en fait, de ce rapport entre le désir et la loi, entre guillemets, le désir et l'ordre.
Il y avait un... Dr. Jekyll et Mr. Hyde est un personnage très complexe, mais il y a un aspect qu'on n'a pas traité, c'est que cette figure du tueur qui est vraiment amoral, qui reste pourtant attachant, sinon on n'aurait pas autant mystifié. Est-ce que vous pensez qu'il est le pionnier de toute une veine de personnages? Je pense par exemple à un personnage comme Dexter qui connaît un beau succès. Est-ce que c'est le premier tueur en série fictionnalisé qu'on puisse rencontrer? Je pense que Thierry, tu peux nous répondre sur cette question.
Enfin, la figure comme ça de la criminalité sérielle, ça commence avec ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la gestion de la culpabilité et l'inhibition même de la culpabilité. C'est-à-dire, imaginez que la culpabilité, c'est ce qui vous permet d'inhiber vos pulsions et votre jouissance, et imaginez un mécanisme qui vous permette d'inhiber cette inhibition, c'est-à-dire de laisser s'extérioriser le cœur de ce que vous êtes. Et alors, en fait, avec le mythe de Jekyll et Hyde, on arrive à la création de ce qu'on appelle un surhomme, qui est à la fois surhumain et subhumain dans l'expression de sa pulsionnalité. Et c'est là que ça devient fascinant, et c'est là qu'aujourd'hui, Dexter, avec ses côtés plus ou moins humanisés, devient une métaphore dangereuse. C'est parce qu'il nous ressemble tellement qu'on se demande quand est-ce que nous, on va commencer à le faire. C'est ça le problème. Avec Jekyll et Hyde, on se dit, bon, c'est un médecin, c'est un chercheur, il est intelligent, il est peut-être même génial, il est au-delà du tout venant. Dexter, il peut être comme vous et moi. Il y a une astuce comme ça de la modernité qui tend à faire entendre à tout un chacun que la possibilité serait en chacun de nous. Ce qui n'est pas faux, c'est pas exact forcément non plus, mais selon certaines conditions, selon l'éducation dont on a été l'objet, selon la culture dans laquelle on baigne, selon les traumatismes qu'on a subis, on peut se changer en quelque chose d'absolument monstrueux pour les autres, mais pas forcément pour soi. Parce que le tueur en série, il n'est pas un monstre pour lui-même, il ne l'est que pour les autres.
Le rapprochement avec Dexter est intéressant parce qu'il montre aussi que ce qui nous sépare de l'époque de Stevenson, c'est-à-dire que les 130 ans qui nous séparent de l'écriture de Hyde, ou 140 ans maintenant, ou comment on passe de Hyde à Dexter, c'est-à-dire de l'homme caché à l'homme habile, Dexter, c'est celui qui a la dextérité, c'est simplement ce que nous a appris le XXe siècle, à savoir que il est aujourd'hui possible et plausible et acceptable. Ce qui n'était ni plausible ni acceptable à la fin du 19e, c'est de représenter un homme de loi, un policier, devenant un tueur en série la nuit, même entre guillemets pour la bonne cause, mais on se doute qu'il y a jouissance, donc culpabilité morale, de façon tout à fait intégrée. Alors qu'à l'époque de Hyde, c'était désintégré, c'était la partie refoulée. Aujourd'hui, pour être un homme complet, assumé, il faut admettre que la part nocturne, violente, bestiale, voire sadique, coexiste avec la part diurne qui s'occupe de la loi, sans sans grand problème, en fait. C'est ça que nous apprend la série Dexter. C'est qu'au fond, le personnage est toujours le même. Nous, on sait, les autres ne savent pas dans la série, mais nous, on sait, quand on le voit à son bureau et qu'on sait qu'il est en train de préparer les séances de torture de la nuit, au fond, ça ne nous paraît pas contradictoire. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'envisager une scission de la personnalité. Et c'est la grande différence avec l'époque victorienne, c'est que le XXe siècle nous a appris à faire coexister et à admettre en nous la coexistence de plusieurs... d'une politique, quel est le terme ? D'une constellation de sous-moi, ou en tout cas, à faire fonctionner ensemble de manière relativement harmonieuse, autant que faire se peut, le moi diurne qui obéit à la loi et le moi nocturne qui cède à ses pulsions.
C'est ce qui a amené, en termes épistémologiques, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est ce qui a été amené par Freud lorsqu'il a parlé de la subjectivité de la Spaltung, c'est ce qui sépare le sujet, mais la séparation, ça ne veut pas dire rupture. Ce qui sépare, ça ne veut pas dire que nous sommes schizoïdes. Nous ne sommes pas schizoïdes, nous sommes séparés de nous-mêmes.
Puis avant, il y a Nietzsche, le point de subjectivité mobile, Nietzsche.
Oui, bien sûr. Mais bon, Freud avait lu Nietzsche, il avait lu Schopenhauer, il avait lu tous ces gens-là. Effectivement, on est dans une progression et on tombe ensuite avec le nazisme et la banalité du mal de Arendt, où on se rend compte que quelqu'un d'absolument ordinaire est capable de tuer des centaines de milliers de personnes en répondant avec calme et sérénité, mais vous comprenez, je ne m'occupais que des trains.
Alors justement, à ce sujet, je me permets de rebondir parce que je suis entièrement d'accord. Et Jekyll ne tue personne, en fait. Il y a bien mort, mais qui sont des choses, c'est complètement objectalisé. En fait, les morts qu'occasionne Jekyll son glamour, Hyde bien sûr, ou Jekyll par un effet de rhétorique, oui. Hyde est son glamour en fait, à chaque fois il augmente ses points de vie de Hyde en tuant et il est élégant. Par exemple, Dorian Gray fait beaucoup de dégâts dans le roman, mais c'est pareil, c'est objectalisé, on n'a pas une larme pour les victimes, par contre on en a quand on pense à ce que fait Dorian sur lui-même. Là aussi il est glamour. Et je pense qu'il y a une séduction qui accompagne cette culpabilité dont on parle depuis le début. Et finalement, tout ça est très narcissique parce qu'on se dit, oui, je suis coupable, mais quelle élégance, quelle classe dans la casse. Je suis vraiment très bien.
Je peux rebondir là-dessus parce qu'il me semble qu'on a tendance justement, et c'est pour ça que la fusion avec le mythe de Jack l'Éventreur est intéressante, on a tendance à considérer Hyde comme un serial killer ou un prototype de serial killer, bon, ce qui est absolument faux, enfin dans le roman je veux dire. Hyde ne tue qu'une seule personne, il tue un respectable membre du parlement anglais qui l'a accosté de manière un peu brutale selon lui, il le piétine comme on le sait, etc., avec une sauvagerie féroce. Le premier, peut-être l'un des premiers tueurs en série de la littérature 19e, c'est le monstre de Frankenstein, c'est lui qui tue à répétition. Donc en fait, Stevenson est en retrait par rapport à ça. Par contre, effectivement, dans les adaptations cinématographiques, dans certaines adaptations cinématographiques, etc., là, effectivement, la figure du tueur en série revient, mais justement toujours par le biais de Jack l'Éventreur. Donc c'est le cas au moins dans deux films, celui que vous allez voir tout à l'heure, Dr. Jekyll et Sister Hyde, qui est un film Hammer extrêmement intéressant, de Roy Ward Baker, où là, l'acteur interprète un double rôle de manière extrêmement convaincante. Et puis, un film dont on n'a pas encore parlé, mais qui me paraît très important, c'est le film de Stephen Frears, qui s'appelle Mary Riley, où il y a un déplacement du point de vue, un film de 95, je crois, ou 96, et où le double rôle est interprété par John Malkovich, mais justement de manière tout à fait intéressante par rapport à ce que tu disais, Thierry, tout à l'heure, c'est-à-dire que, alors que les adaptations hollywoodiennes classiques des années 30-40 font une distinction très nette entre Jekyll, le jeune premier qui séduit les femmes, etc., et Hyde, qui les séduit d'une autre manière et qui est monstrueux, simiesque, etc., avec des aspects peut-être de racisme, en tout cas anti-noir évident, enfin, si on pense au film des années 30. Au contraire, John Malkovich interprète un Hyde très très proche de Jekyll, où à la limite la différence justement est minimale. Et là on a très clairement deux conceptions de la monstruosité, une conception on va dire classique, où le monstre est différent physiquement, ce qui traduit sa monstruosité intérieure, et le monstre moderne type Dexter effectivement, où la différence ne se voit plus. Et donc d'autant plus dangereux, évidemment, que la différence ne se voit plus. Voilà.
Sinon, il y avait une question que je me posais au point de vue purement de l'écriture. Comment on arrive à gérer, enfin, est-ce qu'on peut décemment écrire sur des personnages ou construire des personnages totalement amoureux où on est obligé de passer par cette fameuse dichotomie qu'on peut trouver chez Dr. Jekyll et Mr. Hyde, par exemple. Je pense à toi, Thierry.
Ben, c'est quand même difficile à gérer, justement. Moi, j'ai écrit Médic, par exemple, qui est l'histoire d'un parfait salopard, mais je l'ai écrit à la première personne du singulier, ce qui est d'autant plus difficile parce que j'avais aucune distance, aucun éloignement possible par rapport au personnage. J'étais presque le personnage. Et non, enfin, quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai pas pensé à Jekyll et Hyde, j'ai pensé à un être humain. Bah, qui est ce qu'il est, quoi. Et puis donc, non, l'écriture de ce genre de personnage est fascinante, c'est sûr. Enfin, il y a une part de fascination presque macabre, il faut quand même le dire, il faut quand même l'avouer. Et en même temps, il y a une répulsion totale, quoi. Et le problème dans l'écriture, c'est de gérer ces deux pôles qui sont complètement contraires et qui se désaimentent, en quelque sorte, et de pouvoir aller jusqu'au bout, en gérant toujours cette dichotomie qui est malgré tout inhérente à l'être humain. Enfin, pour moi, attention, hein, c'est mon avis, c'est mon opinion. Mais c'est quand même très difficile à gérer. Mais je ne le referai pas une deuxième fois, c'est clair. Mais en même temps, je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que justement, je voulais apporter, comme les scénaristes de Dexter, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, le font, j'ai voulu apporter ma petite pierre à ce que moi, je ressens de ce que je suis, en fait. Tout simplement. Voilà.
Je ne sais pas, Xavier, est-ce que tu peux parler de...
Non, j'ai pas souvenir d'avoir été confronté à ça. Donc non. Non, ça, j'ai pas quelque chose qui me vient comme Thierry aussi spontanément. Donc non, honnêtement, non.
D'accord. Je crois que je suis trop bien élevé pour avoir fait des vrais salopards, mais je me souviens d'avoir lu, je ne sais plus où, un conseil qui m'avait paru, a priori, c'est un préjugé, mais qui m'avait paru assez judicieux sur la façon de traiter les grands personnages de vrais méchants. Et ce conseil était en substance, n'oubliez pas que le méchant n'est jamais que le héros de sa propre tragédie à ses yeux, à lui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un quand on raconte une histoire de tueur en série, la meilleure manière de le rendre plausible, et c'est sans doute pourquoi, par exemple, le personnage de Lecter est devenu un grand personnage de fiction et pratiquement une figure moderne de l'ogre, c'est que Thomas Harris a accepté le fait que, à ses propres yeux, c'est un héros. Et dans le maniement du point de vue, dans l'usage des métaphores, il a fait de Lecter un grand personnage positif à ses propres yeux, raffiné, luxueux, positif. Ça me paraît être l'ABC pour être crédible quand on écrit une histoire de vrai méchant. Non, c'est tout.
Je réfléchissais. Moi, ça ne s'est pas posé parce qu'en fait, c'est posé l'inverse. J'ai fait un monstre qui était Elephant Man dans Ganesha, mais il est immédiatement monstre puisqu'il est physiquement monstre et c'est son humanité qui est cachée. Donc en fait, c'est totalement l'inverse de la problématique.
En ce qui me concerne, quand j'ai travaillé sur les tueurs en série, je me suis dit, mais puisque les tueurs en série sont un trope comme ça de la littérature et du cinéma, est-ce qu'on peut essayer de fictionnaliser quelque chose de réel? Et je me suis mis à fictionnaliser justement l'horreur. J'ai été jusqu'au bout de la démarche de l'horreur. Et j'ai créé des fictions et j'ai découvert que c'était une mécanique. C'est une mécanique de la pensée, c'est une mécanique de l'écriture, et ça demande, pour pouvoir être écrit, une distance extrême de l'auteur avec ce qu'il écrit. C'est-à-dire que il y a la chose, et je dis bien la chose monstrueuse dont il va parler, et lui. Et évidemment, lorsqu'on décrit ces personnages qui sont absolument terribles et terrifiants, et qui sont d'une malveillance qu'on a du mal à imaginer si on ne les a pas rencontrés, on n'en sent pas forcément indemne. Et j'ai quelques-uns de mes lecteurs qui m'ont dit « Mais comment tu as fini par t'en sortir après autant de temps ?» Parce que dans le lien, dans la relation qu'on a avec ces figures du mal, il y a quelque chose qui nous touche. Il y a une forme de contamination psychique qui se joue. Et en clinique, en tout cas, je peux vous dire que lorsque vous rencontrez des gens comme ça, de grands psychopathes ou des tueurs en série ou de grands assassins, il faut être vraiment très, 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 très neutre, parce que sinon, vous avez l'impression qu'ils vous mangent l'âme. Et même quand on commence à les écrire, la jouissance qu'on peut avoir dans l'écriture du monstre va nous amener, au bout d'un moment, à nous demander « Mais qu'est-ce qu'il y a de nous dans cette représentation-là » Et c'est là, dans cette mise en abîme, qu'il y a quelque chose qui se joue à chaque fois dans l'écriture. Et c'est pour ça que certains peuvent y aller. Thomas Harris y est arrivé. Il y a un certain nombre d'écrivains américains qui y arrivent très facilement, mais ils sont extrêmement bien documentés. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas, parce que c'est tellement répugnant qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Mais il y a effectivement quelque chose de la répulsion qui se joue à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
C'est tout à fait ça, oui. C'est là que la fascination, en même temps la répulsion, et ce voyage-là, effectivement, il est très dur à faire. Parce que justement, cette répulsion, elle répond à quelque chose qui est en nous. C'est bien ça le problème. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, on ne peut pas se dissocier d'un tueur en série. Enfin, moi, pour moi, ce n'est pas possible. Parce que ce type qui est en face de moi, ça reste un être humain. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que le XXe siècle nous a permis de comprendre. Après que tous les carcans idéologiques soient tombés, on a enfin libéré l'esprit, notre esprit, pour dire ce type en face de moi, c'est pas un monstre, c'est pas un double, c'est pas un être avec une frontière comme Jekyll et Hyde, parce que je pense que moi, Stevenson a écrit avec son imaginaire accepté du 19e siècle. Avec ce qu'il pouvait imaginer à ce moment-là, lui-même pris dans ses carcans idéologiques et religieux. Au fur et à mesure qu'on avance au XXe, XXIe siècle, les carcans se libérant de plus en plus, enfin, c'est ma vision des choses, attention, hein. Et ben, forcément, on en arrive à une sorte de miroir, quand même, malgré tout. Et c'est vrai que, comme tu le disais, moi je comprends très bien que certains écrivains ne puissent pas y aller, quoi. Et c'est exactement cette expression-là. On ne peut pas y aller, tu vois. C'est ça, aller vers quelqu'un qui, en fait, est un peu comme soi, malgré tout.
Ça m'intéresse, bon, moi, je ne suis pas écrivain, je le précise, hein, mais je voulais quand même parler, justement, de revenir à Stevenson encore, parce que, certes, il a des carcans idéologiques, moraux, etc., religieux, mais justement, la force de Stevenson, dans son texte, c'est un travail d'écriture, c'est qu'il arrive à rendre Hyde, bon, ne serait-ce que par le jeu des pronoms personnels, tout simplement, le jeu et l'autre, hein, le jeu, et, enfin, c'est he and I, hein, lui et moi, littéralement, qui sont totalement, plus le roman avance, et plus ces deux instances, en quelque sorte, identitaires, sont indissociables. Et ça se traduit par des figures de rhétorique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, on ne sait plus, à un moment donné, qui parle. C'est ça qui est très fort. On ne sait plus qui parle, si c'est Hyde en Jekyll, Jekyll en Hyde, ou une sorte de tiers, en quelque sorte, qui serait une sorte de fusion des deux. Et ça, c'est extraordinaire. Et l'autre aspect qui rend le personnage totalement fascinant, effectivement, c'est que Hyde n'est pas simplement un persécuteur, c'est aussi un persécuté, c'est aussi un victime, c'est aussi, comme le dit Poe, par exemple, dans un texte célèbre, l'homme des foules, hein, c'est-à-dire le criminel qui est dans la foule et qui est indissociable et qui cherche à se fondre dans la foule, littéralement. Et donc, je trouve que Stevenson, sur ce plan-là, est un écrivain extrêmement moderne parce que, justement, il a su jouer de cette ambiguïté du discours. Voilà. Et puis, je voulais juste faire une pub pour quelqu'un que j'aime bien, qui est un spécialiste de Stevenson, mais qui est aussi romancier, et qui a écrit qui a tenté le tour de force d'écrire un Hyde à la première personne. C'est-à-dire qu'il y a, c'est le crime étrange de Mr. Hyde, Jean-Pierre Nogrette, et je vous recommande, c'est un petit livre fabuleux, et là, sa première trouvaille, c'est le renversement du point de vue, c'est-à-dire de faire écrire Hyde, de faire de Hyde le sujet du discours, ce qui n'est absolument pas chez Stevenson, Le deuxième tour de force, c'est d'avoir donné une syntaxe particulière à Hyde, c'est-à-dire c'est littéralement une sorte de discours continu sans ponctuation. Donc des phrases très longues sans ponctuation qui sont censées suggérer le rythme haletant en quelque sorte du personnage qui justement, après avoir été persécutant, est persécuté et poursuivi. Et ça, je trouvais ça assez fort. Et bon, évidemment, il y a d'autres réécritures de Jekyll et Hyde, mais ça fait partie des réécritures, à mon avis, intéressantes. Voilà. En tout cas, je comprends tout à fait le problème qu'on peut avoir quand on parle.
À un niveau très clinique, ce que nous annonce en fait Stevenson à un niveau historique, mais de la même façon Dracula, ce que nous annonce Dorian Gray, etc., c'est l'idée qu'à un moment donné, il puisse y avoir un autre mode de personnalité qui puisse s'intégrer dans la société. Alors, pendant des années, on a fonctionné dans l'idée que c'était la personnalité plutôt névrotique qui pouvait s'adapter à nos sociétés. Avec Dorian Gray, on se rend compte que la perversion, ça devient le mode d'adaptation idéal. Avec Dexter, on se rend compte que la psychose peut aussi très bien fonctionner dans la société moderne, et ça, pour un clinicien, ça devient extrêmement inquiétant, parce que les psychotiques ont ceci de particulier, c'est qu'ils arrivent à créer de vraies ruptures entre leur relation avec les objets de leur désir et avec les autres. Et Dexter particulièrement fait partie de ces psychotiques modernes qui paraissent parfaitement intégrés à notre société et en fait qu'ils ne le sont pas du tout. Et ils ne sont intégrés que dans la mesure où ils sont en rupture totale avec leur environnement social. Il est incapable de la moindre relation sociale, il est tout le temps dans la représentation, et aujourd'hui, ce mode de représentation permet à certaines personnalités complètement délirantes, et même parfois sans délire, mais vides à l'intérieur, de fonctionner. Et ça, Jekyll et Hyde, c'était quelqu'un qui était, bon, un peu schizoïde, mais il arrivait quand même à s'en sortir. Dorian Gray, c'est un vrai pervers, et il va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on se dit, quels sont les discours qui vont permettre à des gens qui sont complètement vides à l'intérieur de se remplir et de se sentir exister. Et aujourd'hui, comme le suggéraient Serge et Xavier, on nous donne presque les moyens d'y arriver. On peut tuer, on peut faire plein de choses, on peut ne même pas être repéré. Et aujourd'hui, ça devient d'autant plus couru qu'il y a des gens qui deviennent des serial killers dans leur salon et ils commencent très tôt. Entre 5 et 8 ans.
Je confirme ce que dit Thierry avec un autre point qui existe déjà à l'époque, qui est l'influence de la philosophie utilitariste sur le domaine anglo-saxon, et qui est que la grande question de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est de savoir si, indépendamment de ça, Dr. Jekyll est un bon médecin. Parce que si, durant la journée, il fait bien son travail, tout va bien. C'est-à-dire que c'est pas tant l'individu qui compte avec ses travers et ses déviances que le tout politique ou le tout social. Et dès lors que Dexter et avant lui Jekyll font bien leur boulot, bah ma foi, à côté, c'est pas bien grave.
Non, juste un mot pour dire que Jekyll n'est plus médecin. Non, chez Stevenson. Je veux dire, il a abandonné son activité médicale.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant la littéralité de la chose, de la manière que Frankenstein n'a jamais été docteur. Non. Ce qui compte, c'est une blouse, c'est un acte, c'est une seringue. Dans la mesure où le scientifique tient son rôle, quel qu'il soit pratiquement, ça va.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une figure très importante dans le roman, je crois, mais c'est la figure de l'emprisonnement. C'est-à-dire que plus Hyde est libéré, en quelque sorte, et plus Jekyll est prisonnier. Donc il finit par ne plus avoir de contact littéralement avec personne, d'où cette image séminale de l'homme derrière la fenêtre qui est coupé littéralement du monde. Je crois que c'est pour ça, c'est ce que je veux dire. Alors que Dexter, effectivement, il fait son boulot, il est...
De la manière, par exemple, Bruce Banner, plus tard, devient un fugitif, comme dans la série d'ailleurs. Ouais. Mais de temps en temps, quand il faut, il redevient le professeur Bruce Banner pour le service du bien collectif.
Tout à fait. Il me semble, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, peut-être on a parlé d'un feuilleton qui s'appelait Hyde, je ne sais pas, mais il y a un feuilleton qui s'appelle Jekyll aussi. C'est peut-être le même, j'en sais rien. Une série télévisée britannique de la BBC qui s'appelle Jekyll, et qui est absolument passionnante. Et donc, je crois qu'il y a eu une saison, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a eu deux, 6 épisodes, et on parle toujours de faire une deuxième saison. Et je vous recommande vraiment cette série parce qu'elle est passionnante. Bon, c'est une sorte de croisée entre justement un roman gothique et une référence, enfin, je veux dire, un texte, une fiction gothique et avec une référence évidente au monde victorien, parce qu'on rencontre Stevenson au cours de la série. Il y a un épisode qui est consacré à Stevenson, au rapport entre Stevenson et Henry Jekyll. Et c'est la descendance, en quelque sorte, de Hyde plus que de Jekyll. Et il y a aussi un complot paranoïaque autour de gens qui cherchent à s'emparer d'un secret, justement, etc. Donc c'est une très belle série. Et puis bon, puisqu'on tu as parlé d'Alan Moore au début, je crois qu'on peut signaler aussi, outre le From Hell, donc le Jack l'Éventreur, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, avec la figure de Hyde, qui devient une sorte de sauveur au service de l'humanité, en quelque sorte, pour se libérer d'un mal encore plus grand, que Hyde, justement. Donc Hyde devient une figure du bien, finalement.
Dans la Ligue, c'est très ambigu.
Mais enfin, au départ, il est engagé pour servir une cause, une bonne cause, disons. Mais après, ça dérape un peu, effectivement.
Puis il règle son compte dans la Ligue à l'autre double bien mal, c'est Griffiths.
Oui, oui. Ouais, tout à fait.
Donc on est ce qui est clair, et ça peut peut-être faire figure de conclusion provisoire, c'est que pour un roman, un petit roman écrit il y a 140 ans, vu le nombre d'adaptations cinéma, télé, romans, de reprises du thème à l'envers, vu d'un autre point de vue, vu du point de vue de la femme qui sert le docteur, vu le caractère inaugural, même s'il est assez largement imaginaire et mythifié, disons, de la figure du serial killer, du double noir caché, on peut dire que c'est quand même un des... Le roman lui-même, en tant que roman, parce que Stevenson est un remarquable écrivain, c'est quelqu'un qui, plus qu'un grand prosateur, est un parfait conteur. Enfin, ouais, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui manipule le lecteur superbement. Mais on peut dire que ça a été dans ce texte l'occasion de mettre à jour un des mythes du XXe siècle. C'est-à-dire un mythe qui continue de nous accompagner encore aujourd'hui et qui nous a manifestement servi de miroir et dans lequel on a pu lire nos propres aventures au XXe siècle, y compris... et particulièrement lorsqu'elles étaient très sombres. Donc en ça, on peut dire que c'est effectivement un grand moment de la littérature. Oui.
Ouais, tout à fait.
Ce sera une très bonne conclusion, Serge, je pense.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.